Chers amis, chers sympathisants, je tiens au préalable à vous saluer, à vous dire l'honneur que je ressens ce soir de me trouver parmi vous. Vous vous incarnez par votre action, votre dévouement, votre présence ce soir, la volonté de demeurer fidèle à l'esprit que nos pères nous ont inculqué. L'amour de notre pays, la volonté de résister à des influences venues d'ailleurs et qui voudraient réduire notre beau pays à un espace économique matérialiste, oublieux de ce qui fut au cours des siècles la grandeur de notre patrie. Notre pays s'est fondé et a suscité le respect du monde qui nous entoure en se référant à des valeurs immuables. Ce qui est en jeu, ce qui est en péril de mort, ce n'est pas seulement notre civilisation, ce qui risque de s'éteindre, c'est la dévotion à la patrie, qui ne saurait s'identifier au nationalisme prédateur, car la patrie, ce n'est pas, comme voudraient le faire accroire les bruyants partisans de la soi-disant Europe de Bruxelles, un chauvinisme ardent et conquérant, mais l'amour du sol natal, l'attachement à ce qui dure, à ce qui est immuable, éternel, à nos pères, aux ancêtres qui ont fondé notre pays, c'est un devoir de piété en vertu du quatrième commandement. Si je me suis proposé ce soir de poser la question de savoir si le communisme est mort, c'est justement parce qu'il me paraît s'agir d'un débat essentiel. Aujourd'hui occulté, et qui en fait interpelle ou devrait interpeller tout homme soucieux du destin de notre pays. Heurté de plein fouet par les événements survenus à Berlin en novembre 1989 et qui furent interprétés comme la libération ou comme le symbole de la libération des peuples opprimés. À tort ou à raison, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. L'Union soviétique s'est effondrée, personne ne saurait en douter. Le régime communiste d'Allemagne de l'Est s'est dissous dans une nouvelle unité, mais existe-t-il une différence fondamentale entre l'Union soviétique défunte, ses commissaires politiques, l'étoile rouge de ses soldats, et l'Union européenne et ses commissaires technocrates, les étoiles qui couronnent son emblème, ou ne s'agit-il que d'une modification dans les méthodes, les moyens, l'esprit à la base de ces deux unions n'ayant fait que changer de peau comme le serpent. Telle est la question que je pose ce soir et laquelle je vais m'efforcer de répondre. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre brusquement, brutalement, devant les caméras de télévision du monde entier. Ce fut le symbole, généralement reconnu, ou tout au moins le signe précurseur de la chute de l'Empire soviétique. Ainsi, en quelques heures, ce colosse devant lequel, pendant des dizaines d'années, le monde avait tremblé, n'était tout à coup qu'un tigre de papier. Certes, des lézardes étaient apparus dans cet édifice qui terrifia 70 ans durant les populations asservies. Mais longtemps, il parut inébranlable et son expansion irrésistible. La carte du monde où se multipliaient les taches rouges inquiétait plus d'un expert. D'autre part, les interventions de l'armée soviétique dans les territoires occupés ont laissé sans réaction le géant américain et ses alliés occidentaux. Ainsi, à Berlin, le 17 juin 1953, à Budapest, en automne 1956, ou à Prague, en août 1968, les insurrections menées avec l'énergie du désespoir de peuples tombés dans l'esclavage furent noyées dans le sang sans que l'OTAN ne réagisse. De même, le 11 août 1961, le mur de Berlin coupant la ville en deux est érigé dans la passivité totale des Occidentaux, dont les dirigeants sont en vacances et se révèlent incapables de réagir comme paralysés par le colosse soviétique. Comment Khrushchev avait-il l'audace de troubler la douce quiétude que d'aucuns s'accordent à respecter durant la trêve estivale? Le Spoutnik, lancé en 1957, premier satellite de l'espace, est apparu comme un défi lancé aux États-Unis d'aucuns prédisaient la décadence industrielle et économique face à une Union soviétique en pleine ascension. C'est d'ailleurs ce que j'entendais sur les bancs de l'université à cette époque lointaine. La riposte majeure de l'Occident face à l'hégémonisme soviétique tant redouté fut l'implantation, non sans de multiples réticences, des fusées Pershing en Allemagne, fusées qui devaient être le frein efficace à la menace militaire rouge. Ainsi, ce 9 novembre 1989, le monstre s'effondrait d'un coup ou presque, même si sa faiblesse se révélait ça et là, et se manifestait notamment par les soubresauts que provoquaient de fréquentes révoltes dont l'écho étouffé parvenait à l'Occident, un Occident qui n'avait pas envie de réagir, se contentant de temps à autre de protestations diplomatiques. Ainsi, la réaction prudente de Giscard d'Estaing, président de la République française, lors de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques, fut en cette circonstance caractéristique de la veulerie occidentale et totalement inapte à faire reculer Brejnev et ses acolytes. Dès lors, et même si certaines faiblesses de l'Union soviétique ne pouvaient échapper aux esprits avertis, comment expliquer cet effondrement survenu le 9 novembre 1989 et celui-ci signifie-t-il la décadence irréversible du communisme? Pour tenter de le savoir, il importe de définir avec clarté ce qu'il faut entendre par le communisme. Celui qu'incarnait l'URSS était-il le seul concevable et a-t-il ainsi définitivement disparu, ou au contraire, était-il une des formes que prenait une idéologie capable de modifier sa tactique et ses méthodes ou son style au gré des circonstances? N'avait-on pas vu Lénine, au moment de la NEP, renier l'étatisation centralisatrice et brutale née avec la révolution de 1917 pour mener une politique plus libérale de nature à endormir l'Occident? Je vais donc tenter de vous donner une définition du communisme, puis je dresserai brièvement le tableau de ce que fut historiquement le communisme dans son expression soviétique. Pour comprendre la nature réelle du communisme, je vais me référer essentiellement à deux études différentes, mais qui se complètent, l'une qui se fonde sur des critères essentiellement philosophiques et logiques, c'est-à-dire rationnels, et l'autre qui se livre à une vision plus intuitive et qui se situe au plan religieux, voire métaphysique. L'auteur de cette première étude, que je dirais philosophique, se nomme Jean Housset, un esprit lumineux. Il est l'auteur de cet ouvrage remarquable, Marxisme et Révolution, et je vais vous en citer quelques extraits que j'estime caractéristiques de son analyse. La dernière édition date de 1981, mais elle garde tout son intérêt. L'erreur risque d'être totale de qui, pour lutter contre le communisme, continuerait à s'en faire l'idée qu'on en pouvait avoir il y a 10 ans ou 20 ans, période où l'estampille Moscou était pratiquement la seule étiquette. Donc que ce communisme ait disparu, il a seulement évolué. Il s'est transformé, il s'est considérablement diversifié. Qu'est donc la révolution? Ce que la révolution a de plus essentiel est de dissoudre tout ce qui peut être substance de vérité, d'ordre objectif. Elle ne veut retenir que l'aspect évolutif, l'aspect perpétuellement changeant des êtres et des choses. Est, est, non, non, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Dans son discours aux funérailles de Marx, son compagnon de lutte, Engels, prit soin de souligner que sa philosophie dialectique dissout toutes les notions de vérité absolue, définitive et de conditions humaines qui correspondent. Il n'y a rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle. Elle montre la caducité de toute chose et rien n'existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et du transitoire. Ainsi s'exprimait Jean Housset il y a bientôt 30 ans. Tout cela, ce refus systématique de toute vérité objective, d'une distinction entre le bien et le mal, nous le retrouvons dans toute l'histoire de l'URSS, mais cela est manifeste aussi dans la mentalité de notre monde dit post-communiste, où toute référence à des principes moraux, aux valeurs éternelles, je dirais à la loi naturelle, a disparu pour faire place à l'action, au seul critère de l'évolution des mœurs, à l'identification de ce qui est bon à ce qui est neuf. J'en viens maintenant au second volet du chapitre consacré à la définition du communisme, En vous citant de larges extraits de ce que dit le très grand écrivain d'origine russe Vladimir Volkov, moins philosophe peut-être, plus littéraire, mais combien perspicace et admirable, tant sa foi profonde vibre et imprègne toute son œuvre. Il ne craint pas d'ailleurs de s'inspirer largement de Dostoïevski, authentique prophète de la catastrophe communiste, visionnaire qui par son intuition a su prédire la malédiction qui allait s'abattre sur le peuple russe. Voici ce que nous dit Volkov. Pour ma part, lorsque je dis communisme, je ne songe pas tant au matérialisme absolu, à la mise en commun des moyens de production, à l'abolition de la propriété privée, aux règles de la dialectique, au sens d'histoire et à la lutte des classes, qu'à deux images qui me semblent symboliser la perversion intrinsèque du communisme. C'est premièrement le projet qui a failli être réalisé sous Brejnev et qui consistait à faire couler la Volga à l'envers de la mer vers la source. Non seulement l'écologie de la Russie entière en aurait été ravagée, mais le geste lui-même révélait un défi au cosmos, une hubris visant à faire de l'homme non plus le roi de la création, mais son tyran. C'est secondement le sort des athlètes femmes de la RDA, auxquelles on administrait des hormones mâles pour améliorer leur performance olympique. Certaines ont fini par en mourir, mais plus que leur mort, c'est l'atteinte à l'intégrité de la création qui me paraît significative. On n'a pas plus le droit d'attenter à la structure sexuelle de l'être humain qu'au cours dieudonné des fleuves. Qu'est-ce que cela dira-t-on à côté de la découlakisation ou de la révolution culturelle ? Voir, il y a eu des massacres et des génocides depuis que l'homme est homme. La perversion du macrocosme et du microcosme n'avait pas encore été tentée, faute de moyens scientifiques peut-être, mais faute aussi d'un Lucifer conséquent. À propos du critique Belinsky, Dostoïevski écrivait dans son journal d'un écrivain « Comme socialiste, il fallait d'abord abattre le christianisme. Il savait que la révolution doit nécessairement commencer par l'athéisme. » La base même du communisme est la négation de l'idée de vérité, puisque Dieu n'existant pas, il n'existe pas non plus de vérité absolue. Le communisme abolit les vérités éternelles, écrit Marx dans le manifeste du Parti communiste. La vérité d'aujourd'hui est ce qui profite au communisme aujourd'hui. La vérité de demain sera autre, puisque l'opportunité est son seul critère. C'est bien ce que signifiait le titre du quotidien officiel du Parti communiste, la Pravda, vérité, on changeait de vérité tous les matins. En effet, ce qui est en jeu dans le communisme, c'est le contraire du dieu-homme, c'est le singe-dieu, mythe monstrueux plutôt que grandiose, imaginé, n'est-ce pas dérisoire, par les penseurs bourgeois en faux col et lorgnon du XIXe siècle. Cette nature profondément antéchristique du communisme, Dostoïevski l'a saisi, sinon avant tout le monde, car le pape Pie IX la flétrissait déjà en 1846 dans Qui Pluribus, du moins avant beaucoup et mieux que la plupart. On pourrait dire que toute son œuvre est entre autres une dénonciation prophétique du communisme et des doctrines apparentées. Dans le journal d'un écrivain, Dostoïevski est encore plus explicite. Le socialisme, c'est ainsi qu'à son époque on désignait le communisme, n'est rien autre pour lui que l'unification contrainte de l'humanité, donc la réalisation forcée du rêve qui nous hantait tous. De cette manière, nous avons pris pour l'arrivée au but ce qui était le sommet de l'égoïsme, le sommet de l'inhumanité, le sommet de l'incohérence et du désordre économique, le sommet de la calomnie contre la nature humaine, le sommet de la destruction de toute liberté des hommes. Le communisme apparaît donc à Dostoïevski comme le reflet difforme du christianisme, comme sa doublure mauvaise, assez ressemblante pour séduire d'abord, mais le déformante en réalité sur tous les points. Dostoïevski, pressentant et ce programme de déracinement total, d'arrachement à la réalité, à l'être inscrit dans le temps, se représentait la situation. Il faut qu'un peuple comme le nôtre n'ait pas d'histoire. Ce qui lui servait d'histoire, il doit l'oublier avec dégoût. Voilà donc ce qu'est le marxisme-léninisme qui, avec l'Empire soviétique régnant, a pris le nom de communisme, appellation que je dirais d'occasion et qui a pu disparaître pour prendre d'autres apparences si l'intérêt de la stratégie l'exige. L'une des caractéristiques dominantes de ce que l'on nomme l'Occident, ou plus précisément de sa culture, c'est d'avoir assumé pour le meilleur et pour le pire la vérité comme valeur fondamentale. c'est le service constant, continu, opiniâtre, humble et multiforme de la valeur vérité qui a fondé le triomphe de l'Occident à dit Jules Monroe. Le marxisme, car c'est en réalité du marxisme lui-même, fleuron de la révolution, qu'il s'agit. Le marxisme n'est qu'une escroquerie intellectuelle enfantée certes par un esprit supérieur, mais un esprit luciférien qui renie la valeur de la vérité, a dit encore Jules Monroe. Ne craignons pas de le dire sans complexe, c'est le mal. Ne craignons pas d'être des anti-marxistes ou des anti-communistes primaires. Le bilan désastreux de son idéologie, comme je vais le démontrer, justifie pleinement une telle attitude de rejet. Je m'en vais maintenant faire un peu d'histoire pour, après avoir esquissé ce qu'est l'esprit du communisme. Il importe tout d'abord de savoir dans quelles circonstances et sous quelles influences il a pu s'emparer du pouvoir dans l'immense et magnifique Russie, la plonger dans la barbarie pendant 70 ans sous le regard impuissant, impavide ou complaisant des dirigeants occidentaux. Il n'y a que les naïfs ou les utopistes pour s'imaginer ou faire croire que les révolutions surgiraient de façon spontanée. La Révolution française ne fut pas l'œuvre des seuls miséreux qui, brusquement, comme par enchantement, auraient entrepris d'abattre l'ancien régime dont le symbole était la Bastille. La Révolution fut préparée patiemment, longuement au sein des sociétés de pensée qui avaient infiltré les plus hautes sphères de l'État. Et la Révolution triompha grâce à de puissants appuis financiers en France et à l'étranger. La Révolution française, ce fut de la boue, de l'or et du sang, et la main cachée de l'Angleterre, a dit François Brignon. En fut-il autrement pour la Révolution bolchévique ? Certes, la Première Guerre mondiale catastrophique pour l'Europe en fut l'occasion. La misère, l'anarchie engendrée par la guerre réveilla ou excita les rancœurs et les haines. Malgré tout cela, certes nécessaire, n'aurait pas été suffisant pour engendrer la victoire des Rouges. Pour l'illustrer, il me paraît nécessaire de procéder tout d'abord à un bref appel historique quant à la situation de la Russie au début du siècle, afin de mieux voir dans quel contexte est survenue la révolution bolchévique. Les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale ont été caractérisées par le développement économique spectaculaire de la Russie. Dans la période 1908-1912, la production de charbon augmentait de 79,3% par rapport aux cinq années précédentes, celle de la fonte de 24,18%. Celle du fer et des produits métalliques de 45,9%. L'accroissement de la production dans la grande industrie pour la période 1900-1913 fut de 74,1% compte tenu de la croissance des prix. Le réseau ferroviaire avait en 1890 une longueur de 26,6 millions de verstes et en 1915 64,5 millions de verstes. L'agriculture russe avait progressé autant que l'industrie. Elle exportait ses excédents de produits alimentaires. Dans les années de bonne récolte, l'exportation de blé russe constitue alors 40% des exportations mondiales, alors que la révolution soviétique engendra la pénurie, la famine et la nécessité d'importer le blé. La population de l'Empire russe, qui comptait 125,6 millions d'individus, en comptait en 1912 171 millions. L'économiste Terry prévoyait que la population russe serait en 1948 de 343,9 millions d'habitants. Or, à cette date, sous le règne de Staline, la population n'atteignait pas 200 millions. Ainsi que le relève Volkov, la Russie impériale dépendait beaucoup moins de la haute finance internationale que les autres pays européens. En 1908, la dette publique était à l'indice 288 par habitant en France, à 58,7 seulement en Russie. En 1914, 83% de cette dette était remboursée grâce au chemin de fer de l'État. En 1912, la taxation était à l'indice 3,11 en Russie contre 12,35 en France et 26,75 en Grande-Bretagne. La réserve d'or russe était en 1913 de 1550 millions de roubles, alors que seulement 1494 millions de roubles papier avaient été émis. À la même époque, le franc français n'était couvert à 50% environ. Avec tout cela, la croissance d'économie russe était telle qu'un économiste français disait en 1914, vers le milieu du siècle, la Russie dominera l'Europe politiquement, économiquement et financièrement. La production industrielle par habitant augmentait de 3,5% par an contre 2,75% aux États-Unis et seulement 1% en Grande-Bretagne. En 1912, le président des États-Unis, Taft, remarquait que la législation sociale de l'Empire russe était plus proche de la perfection qu'aucune législation d'aucun pays démocratique. Le régime politique et social de la Russie impériale a suscité la haine des éléments révolutionnaires et en particulier des bolcheviks. Trotsky et Lénine furent puissamment aidés dans leurs actions subversives par l'or que leur ont fourni les banques américaines et allemandes qui ne pouvaient tolérer l'indépendance économique et financière de la Russie. Trotsky ne se gênait pas pour avouer qu'il avait reçu un prêt important d'un financier appartenant au Parti libéral britannique. Tout au long de l'histoire de l'URSS, les États-Unis se sont révélés en de nombreuses circonstances les complices du gouvernement soviétique. L'aide apportée à l'URSS pendant la dernière guerre mondiale est un exemple parmi d'autres. Dans son roman Le Montage, Volkov donne la parole à un dissident expulsé de l'URSS et qui dit notamment « Je vais vous prouver, moi, que les États-Unis aident les Soviets à mettre les peuples russes dans l'esclavage et tout cela pour le plus grand profit des marchands de canons, ses cousins des banquiers. » Alors il a tiré quelque chose de sa poche. « Ce matin même, a-t-il dit, j'ai quitté l'Union soviétique. Tant que l'avion a survolé le territoire national, on m'a forcé à garder les menottes. Je me les suis fait enlever dès que j'ai appris que nous avions quitté l'espace aérien de la patrie. Et comme je suis un peu pickpocket, je me suis arrangé pour les conserver en souvenir. » Il s'est tourné vers Madame Shoustrevich et lui a tendu ce qu'il tenait dans sa main. « Madame, auriez-vous l'obligeant de lire l'estampille dont cet objet est frappé ?» Madame Shoustrevich a brandi l'objet à bout de bras. C'était une paire de menottes. Et elle a lu l'estampille à haute et intelligible voix. C'était « Smith & Wesson made in USA ». Ainsi, c'est dans la forme d'une allégorie, dans une œuvre d'imagination ou de fiction, que Volkov, en donnant la parole à un personnage imaginaire, nous dit qu'elle fut la cause déterminante de Deus ex machina dans le triomphe de la révolution bolchevique, puis dans sa survie des décennies durant. N'est-ce pas là l'expression d'une certaine prudence, d'une certaine précaution, car il s'agissait de dénoncer une puissance redoutable que la majorité des historiens se refusent à évoquer? Il n'en demeure pas moins que les faits, les circonstances, les personnages mentionnés dans la conférence de presse de cet opposant imaginaire sont réels et confirmés par quelques auteurs tels qu'Henri Coston, Pierre de Villemarais, Jacques Bordiot et plus précisément encore par un document officiel, le Livre blanc américain, ou encore par Michel Heller. Ainsi, si le rôle de groupe financier et industriel américain ou allemand fut indispensable dans l'avènement puis la survie du système, s'il en fut le puissant levier, il ne fut pas le seul facteur qui ait engendré la plus grave tragédie de l'histoire humaine. Il fallait à la Révolution un terrain favorable. Le pays était travaillé depuis des dizaines d'années par la désorganisation révolutionnaire secrète visant la destruction de la monarchie. Le mouvement était né avec le complot manqué des officiers décembristes de 1825. Ils puisaient leur idéologie dans les messages de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. En 1876 fut fondé le groupe Terre et Liberté, dont les méthodes étaient terroristes. En 1881, ses adeptes ont tué le tsar Alexandre II. Les principaux conjurés furent pendus et les rescapés furent à l'origine des deux grands partis révolutionnaires de 1917, le Parti social-démocrate et le Parti socialiste révolutionnaire. En 1903, les sociaux-démocrates se sont divisés en deux partis, les bolcheviks, majoritaires bien qu'en réalité minoritaires, emmenés par Lénine, et les mencheviks, dits minoritaires, plus modérés, conduits par Martov. Dès la fin du XIXe siècle, la Russie souffre de nombreux désordres. Soulèvements armés, révoltes paysannes, mutineries de marins avec l'épisode du cuirassé Potemkin, grèves et attentats terroristes. Trotsky fait son apparition et propose le renversement du pouvoir tsariste. Mais dès 1905, la Russie connaît de profondes réformes. Elle devient une monarchie constitutionnelle. Le tsar a su choisir comme premier ministre un homme éminent, Pierre Stolypine, qui sut restaurer les institutions et entreprend de profondes réformes sociales permettant aux paysans d'accéder à la propriété privée. Près de 10 millions de paysans devinrent ainsi propriétaires avant 1917. mais Stolypine fut assassiné à Kiev en 1911. Cette réforme fut ainsi stoppée. Son importance est illustrée par cette remarque de Trotsky. Si elle avait été menée à bien, le prolétariat russe n'aurait pas pu venir au pouvoir en 1917. Mais tout cela n'aurait sans doute pas été suffisant sans la Première Guerre mondiale. En août 1914, les troupes allemandes débordent les troupes françaises et sont sur le point d'envahir Paris. C'est alors que Nicolas II, dans un élan chevaleresque, s'est porté au secours de la France en faisant attaquer l'Allemagne par ses troupes en Prusse orientale. Il sacrifia ainsi la fine fleur de son armée pour permettre aux troupes françaises de souffler. Mais ce sacrifice coûta très cher à la Russie. Il ouvrit une série de défaites qui ont constitué le terreau idéal sur lequel allait naître puis triompher la Révolution. L'armée russe allait subir un véritable calvaire. Les combats ont tourné à la boucherie. Aussi bien l'armée que les civils souffraient d'un manque de ravitaillement. Au cours de l'hiver 1916-1917, on rationne le pain. La colère gronde et le peuple ne comprend pas l'utilité de cette guerre. L'armée abandonne le tsar. Ici, il s'impose d'évoquer la lourde responsabilité de Poincaré, président du Conseil français, qui, omnubilé par l'esprit de la revanche, non seulement poussait à l'affrontement avec l'Allemagne, mais incita Nicolas II à entrer dans le conflit. Cette attitude eut une répercussion immense dans la tragique histoire de l'Europe au XXe siècle. La maladie du tsarévitch qui souffrait d'hémophilie et la grave dépression dont souffrait la tsarine n'ont pas peu contribué à susciter un malaise dans le peuple. Il fut fait appel à Raspoutine, réputé à tort ou à raison pour ses dons de guérisseur. Aux yeux du peuple, Raspoutine exerçait certes une influence auprès de la tsarine, mais elle n'était pas aussi grande qu'on le disait. Mais le peuple pensait que c'était lui qui faisait tout, et le tsar en fut déconsidéré. Ce fut là aussi un facteur qui favorisa la victoire des révolutionnaires. Si j'ai dit plus haut que le capitalisme occidental fut le moteur essentiel dans l'avènement du communisme, il ne faut pas oublier non plus le rôle joué par le gouvernement allemand qui pensa neutraliser la Russie dans le conflit mondial en soutenant l'action des agitateurs afin de saper les dernières forces de la Russie. C'est ainsi que, selon de nombreux historiens, Lénine fut acheminé en Russie dans un wagon plombé parti de Zurich. Churchill a dit qu'on avait inoculé Lénine en Russie comme on inocule le bacille de la peste. La peste arriva à Petrograd en 1917. D'autre part, selon plusieurs auteurs, l'argent allemand fut également fourni en grande quantité à Lénine et à ses acolytes. Le socialiste Fabien-Édouard Bernstein a affirmé dès 1921 dans le journal Vorwärts, organe allemand du Parti social-démocrate, que Lénine et son groupe avaient reçu plus de 50 millions de marques or de Berlin. Cette affirmation est contestée par Boris Souvarine. Esprit supérieur et l'un des meilleurs connaisseurs d'histoire du communisme soviétique, mais qui, à mon humble avis, manque quelque peu d'objectivité lorsqu'il évoque l'action de Lénine, dont il fut un proche jusqu'en 1924, date à laquelle il rompit définitivement avec l'Union soviétique et avec le Parti communiste français. Toutefois, selon Pierre de Villemarais, même si les chiffres peuvent être discutés, l'aide financière est incontestable et fondée sur des documents officiels. Pierre de Villemarais commente « La révolution de Lénine et celle de ses compagnons doivent tout aux impérialistes et capitalistes auxquels d'ailleurs il accordera main passe droit, une fois au pouvoir, tandis que les capitalistes sauveront de la faillite la plus totale l'économie vacillante d'un régime incapable de faire l'illustration de sa prétendue logique scientifique. » Dès l'arrivée de Lénine en Russie, les événements vont s'accélérer grâce à son sens stratégique. En quelques mois, Lénine parvient à renverser le socialiste Kerensky et à réussir le coup d'État d'octobre 1917. Une longue guerre civile s'ensuivit, qui vit l'échec définitif des Russes blancs abandonnés par les puissances alliées. Le coup de grâce fut donné par la trahison de la Légion tchèque qui livra l'amiral Koltchak. Pour consolider définitivement leur coup d'État, Lénine et ses camarades firent massacrer la famille du tsar le 16 juillet 1918 à Ekaterinenbourg, date généralement admise par l'ensemble des historiens. Ce fut une boucherie atroce dans laquelle périrent le tsar, son épouse, leurs quatre filles et le tsarévitch et leur suite. Ce martyr fut froidement voulu par la direction bolchevique et Trotsky commente cet acte atroce en ces termes. La sévérité de cet acte sommaire prouvait au monde que nous étions déterminés à poursuivre la lutte impitoyablement sans nous arrêter à aucun obstacle. L'exécution de la famille du tsar offrait l'avantage non seulement d'effrayer l'ennemi, mais encore de frapper nos propres partisans, de leur montrer qu'aucun retour en arrière n'était possible et qu'il n'y avait pour nous d'autre alternative que la victoire complète ou la ruine complète. Cela, Lénine l'avait fort bien compris. Mais si ce drame eut lieu, la famille royale d'Angleterre en porte une très lourde responsabilité. En effet, quand le gouvernement provisoire russe, né de la révolution de février, demanda officiellement au gouvernement de Sa Majesté d'accueillir la famille impériale, George V fit répondre par son ambassadeur à Petrograd, Sir George Buchanan, le 15 avril 1917, soit avant la prise du pouvoir par les bolcheviks, qu'il serait préférable qu'un autre pays accueillît Nicolas et sa famille. Au mois de juin, une nouvelle intervention pressante du gouvernement provisoire obtint la même réponse. Ainsi, l'Angleterre, en la personne de son roi, abandonna-t-elle délibérément la famille impériale à son sort atroce, alors qu'un simple geste d'humanité eût permis de la sauver. Ainsi, alors que la Russie était en train de connaître un brillant essor économique et social, sous l'action de la haute finance internationale secondant les menées subversives des révolutionnaires, l'erreur fatale de Nicolas II voulant par solidarité se porter au secours de la France en guerre avec l'Allemagne, la misère matérielle qui s'ensuivit, la maladresse de la tsarine quant à son attitude à l'égard de Rasputin, la lâcheté des puissants alliés qui abandonnèrent la Russie dans ces heures tragiques, ont engendré la naissance et la survie durant 70 ans d'un régime de cauchemar. Mais ne voit-on pas aujourd'hui aussi les grandes banques, la fortune anonyme et vagabonde, se comporter comme les plus ardents partisans de la construction soi-disant européenne? Jetons maintenant un regard sur le bilan effroyable de ce Léviathan. Philippe Conrad, historien, en a brossé un tableau saisissant. Il y eut à côté du communisme rêvé un communisme bien réel, dont l'échec s'est révélé total, puisque le système établi par Lénine et les siens réussit la performance d'assurer à la fois la terreur et la misère au peuple qu'il parvient à subjuguer. Un résultat qui n'a rien de surprenant pour un pouvoir appuyé sur une faible minorité fondée sur la coercition totalitaire destructeur de la société réelle au nom de la construction d'un homme nouveau, purement imaginaire, lointain écho des illusions et du volontarisme prétentieux des hommes des Lumières. L'échec politique n'a d'égal que l'ampleur du désastre économique engendré par le socialisme scientifique. On peut évaluer aujourd'hui les illusions et les mensonges entretenus à propos du bilan de la planification soviétique. La seule réussite du système fut à l'évidence la création d'un redoutable complexe militaro-industriel, base principale du pouvoir statocratique analysé par Cornelis Castoriadis voici une quinzaine d'années. La ruine de la paysannerie russe, le désastre agricole entretenu par le système tout au long de son histoire, l'obsolescence flagrante des capacités industrielles à partir des années 70, l'impossibilité d'assurer un niveau de vie décent à la grande masse de la population ont totalement condamné les prétentions d'un système qui se voulait le garant de l'abondance au profit de tous. Mais le communisme fut avant tout, pour reprendre la juste expression du regretté Michel Heller, une utopie meurtrière, un système naturellement criminogène. Dès le début des années 30, et jusqu'aux années 50, ce sont 20 millions d'individus qui ont connu les rigueurs du goulag. Pour mieux saisir l'atmosphère chargée d'angoisse lourde irrespirable qui a caractérisé le règne de Lénine, mais puis surtout de Staline, permettez-moi encore de vous citer quelques lignes de la biographie écrite par André Brissot. La construction du socialisme s'effectue en vérité dans la hantise permanente des coups frappés à la porte vers 5 ou 6 heures du matin. De l'arrestation, de l'emprisonnement, des interrogatoires, des tortures, et pour celui qui échappe à la balle dans la nuque ou au peloton d'exécution, la hantise de la déportation, baptisée par euphémisme camp de travail, en fait un camp d'extermination où règne la misère, l'épuisement, la faim, la violence, le désespoir et la mort. Nul n'est à l'abri de cette terreur, nul n'a pu se fier à personne, tous les soviétiques ne sont pas des délateurs, mais tous peuvent être victimes d'un délateur. À la lecture de la presse soviétique de l'époque apparaît stupéfiante la vague de délation qui submerge le pays. Il semble que la fameuse émulation enthousiaste du peuple à construire le communisme s'est transformée en une gigantesque émulation enthousiaste du peuple à la délation. Les résultats de ces campagnes de haine et d'ignominie ne se font pas attendre. Les arrestations, très rapidement, atteignent des chiffres astronomiques. Le processus de ces arrestations et déportations en masse apparaît nettement dans l'ordonnance édictée par l'un des chefs du NKVD, Ivan Alexandrovitch Serov, il dit ceci, les opérations commenceront à l'aube. En entrant dans la maison de la personne qui doit être déportée, le chef du groupe chargé d'opérer rassemblera toute la famille de l'inculpé dans une pièce. Attendu qu'un grand nombre d'individus doivent être arrêtés et répartis dans des camps spéciaux et que leur famille doit être dirigée sur des installations appropriées dans des régions éloignées, il est essentiel que le transport du déporté et celui de sa famille soit effectué simultanément sans que leur ait été annoncé au préalable la séparation qui les attend. Toutes ces arrestations, tant spéciales qu'ordinaire, ont lieu à la fin de la nuit. Deux ou trois agents du NKVD bottés et en armes, parfois brutaux, parfois courtois, sonnent ou frappent à la porte et entrent. Ils procèdent à une perquisition qui peut être rapide, mais qui peut aussi durer plusieurs heures, en particulier lorsqu'il faut examiner des documents et des livres. Pendant ce temps, la victime et sa famille, accablées, terrorisées, sont gardées à vue. Au début de la matinée, les formalités ont généralement pris fin. Le produit de la confiscation est embarqué. Les perquisitionnés sont alors emmenés. Ils sont en état d'arrestation. Arrêtés, ils n'y croient pas. C'est sûrement une erreur. Pourquoi eux? Les hommes du NKVD sont muets, sans regard. Inutile de leur parler, ceux qui partent ainsi encadrés ne savent pas encore que tout est terminé pour eux. Tout ce qui était leur vie passée, ils ne tardent pas à réaliser ce qui est devenu soudain leur présent. Une lueur aveuglante et un coup, écrit Solzhenitsyn, qui refoule sur le champ le présent dans le passé et font de l'impossible un présent à part entière. Et un point, c'est tout, et vous n'êtes plus capable de rien comprendre, ni pendant la première heure, ni même pendant les premières 24 heures. Dans votre désespoir, scintille encore devant vos yeux tel un jouet la lumière d'une lune de cirque. C'est une erreur, on va tirer les choses au clair. On ne tire jamais les choses au clair. Quand on est dans l'engrenage, on va jusqu'au bout, la mort lente dans un camp ou la mort brutale par une balle dans la nuque. Il me paraît capital ici de mettre fin à une légende qui consiste à opposer Lénine à Staline et à faire du premier nommé une sorte d'intellectuel génial, d'idéaliste exclusivement soucieux de faire triompher la révolution pour le bonheur du peuple et ennemi de la terreur. Tant que ce mythe se maintiendra, la question de la mort du communisme subsistera avec acuité. En réalité, c'est Lénine qui fut l'initiateur de la terreur. Les mots « terreur de masse », « impitoyable terreur de masse » reviennent sans cesse dans sa bouche. Il a la gourmandise du meurtre. Il dit « aussi longtemps que nous n'appliquerons pas la terreur aux spéculateurs, rien ne réussira. Il convient de réprimer sans pitié les tentatives anarchistes des ivrognes, des voyous, des contre-révolutionnaires. Il faut veiller à nettoyer la terre russe de tous les insectes nuisibles. » Les paysans sous Lénine, comme je l'ai relevé plus haut, furent impitoyablement persécutés, malmenés, molestés et massacrés. Sous Lénine, la Russie creva de faim jusqu'à l'instauration de la NEP. On recommença à manger, mais on ne cessa pas de trembler. Il déclara « C'est une énorme erreur de croire que la NEP a mis fin à la terreur. La terreur et la terreur économique, nous y reviendrons. » Et pour plus de détails, je vous renvoie à l'ouvrage de Volkov, « La Trinité du mal ». Contrairement à ce qui est répandu dans l'opinion, Staline fut une créature de Lénine. Trotsky a dit « Lénine a créé l'appareil et l'appareil a créé Staline ». Il s'était entiché de ce merveilleux géorgien qui continuait gaiement à cambrioler les banques sous ses ordres. À ce propos, je citerai encore l'opinion de Michel Heller et Alexandre Nekrich dans « L'utopie au pouvoir ». Staline n'est pas devenu secrétaire général, c'est Lénine qui l'a fait secrétaire, lui qui fut son protecteur, son maître et son modèle permanent. Boris Souvarine raconte que Victor Adler, se moquant de Plekhanov, lui adresse ce reproche. « Lénine est votre fils ?» Plekhanov lui rétorqua aussitôt. « S'il est mon fils, c'est un fils illégitime. » Souvarine ajoute que Lénine aurait pu dire la même chose de Staline. La question de savoir si Lénine fut un fils légitime ou illégitime de Plekhanov et de Marx continue à nourrir des discussions parmi les philosophes et les historiens, mais la filiation de Lénine à Staline suscite de moins en moins de doutes. La légitimité du fils n'est guère contestable non plus. Staline fut non seulement un fils légitime de Lénine, il fut aussi son fils unique. Que le père, à la fin de sa vie, se soit fâché quand son fils y est même tenté de déshériter, cela n'a rien d'exceptionnel. Certes, le 3 mars 1953, Staline meurt dans des circonstances troubles et suscitant toutes sortes de relations plus ou moins légendaires et dont aucune n'a pu être vérifiée. Pour le soviétologue Michel Heller, Staline est mort de mort naturelle, car il inspirait une telle crainte qu'aucun des leaders du Parti communiste soviétique n'aurait eu l'audace de tenter de mettre fin à ses jours. À la mort de Staline, le vent d'un certain libéralisme, toute proportion gardée, se met à souffler timidement. Mais en réalité, on peut dire avec Boris Souvarine qu'il n'y a qu'une différence de degré et non pas de nature entre les successeurs de Staline et leurs maîtres. En d'autres termes, il faut regarder comme une désinformation le fait d'accoler l'épithète de stalinien exclusivement à l'ère qui vit le règne de Staline. Tous ceux qui ont gouverné l'URSS jusqu'à sa chute furent des staliniens qui ne se différenciaient de Staline que dans leur style de gouvernement, mais non quant à la conception fondamentale. Le stalinisme peut donc durer sans Staline en tant que technique d'oppression et d'exploitation à l'intérieur, d'infiltration, de subversion et d'intimidation à l'extérieur. Une technique revue et corrigée quant aux formes invariables dans le fond, comme cela fut écrit dans le Figaro du 23 mars 1954, un an après la mort de Staline, et comme le confirme Boris Souvarine. Celui-ci précise: il est vrai enfin que les dirigeants actuels n'ont pas commis pendant 3 ans directement et explicitement de crimes comparables par l'envergure ou l'atrocité à ceux dont ils s'étaient rendus complices sous Staline, mais ils pouvaient s'en dispenser précisément parce que des millions, des dizaines de millions d'individus avaient péri jusqu'alors. À ce prix, l'ordre règne pour longtemps chez eux. Celui qui semblait le plus apte à succéder au dictateur décédé, c'était Beria. Il fait montre d'une certaine souplesse, peut-être pour mieux faire oublier ses crimes effroyables en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État. Mais il est rapidement arrêté puis assassiné au printemps 1953. C'est l'avènement de Khrouchtchev qui dénonce Staline et libère des détenus politiques. Ces nouveaux chefs de l'État soviétique n'ont pas le tempérament de carnassier du fauve Staline. Ils paraissent vouloir relâcher la bride car ils semblent comprendre que la terreur systématique n'est pas la panacée, mais ils n'en demeurent pas moins des marxistes, léninistes, dénués de scrupules, s'accrochant à tout prix au pouvoir. Malenkov, le plus dangereux rival de Khrouchtchev, fut même démis de ses fonctions sans être assassiné comme ses prédécesseurs. Mais si la terreur stalinienne et ses provisoirement n'est provisoirement pas à l'ordre du jour, avec la même intensité, le pouvoir soviétique est toujours aussi totalitaire dans les faits, même si la forme s'est modifiée. Il ne s'embarrasse d'ailleurs guère de scrupules lorsqu'il s'agit de réprimer la rébellion de populations qui veulent mettre à profit un certain relâchement et qui n'ont plus rien à perdre, ayant atteint le tréfonds de la misère morale et physique. Les persécutions religieuses se poursuivent implacablement. Les dissidents rejoignent les asiles psychiatriques. Solzhenitsyn et Bukovski, Valéry Tarsis, le poète, sont poursuivis par la hargne du pouvoir et finissent par être expulsés de l'URSS. Les tentatives de révolte noyées dans le sang à Berlin-Est en 1953, à Budapest en automne 1956, à Prague en 1968, sous le règne de Brejnev, démontrent que le pouvoir, quoique affaibli par tant d'échecs économiques, sociaux et humains, demeurait redoutable. L'érection du mur de Berlin dans l'apathie générale confirme la supériorité tactique des dirigeants soviétiques qui, toujours en initiative, étapent sur la lâcheté, l'incohérence ou la complicité des États-Unis et de leurs alliés. Il y a plus, le système soviétique, en dépit des horreurs qui le caractérisent, a exercé une sorte de fascination non seulement sur des intellectuels branchés, mais encore sur certains hommes d'État occidentaux. N'a-t-on pas vu Giscard d'Estaing, président de la République française, déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de Lénine, célébré en Mao Tse-Tung, plus sanguinaire encore que Staline, un phare de l'humanité? Enfin, il est temps de mettre fin à un mythe systématiquement répandu par la presse aux ordres et qui consiste à présenter Gorbatchev comme un libéral revenu de ses illusions marxistes. Il fut en réalité un digne disciple de Staline et son libéralisme ne fut que de façade. Un exemplaire unique classé confidentiel du procès-verbal de la séance du Politburo du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique révélé par Bukowski dans son livre « Jugement à Moscou », procès-verbal datant du 12 juillet 1984 et relatant une séance présidée par Tchenenko et à laquelle participaient notamment Gorbatchev et Gromyko, démontre que pour ces gens, l'ère stalinienne restait à jamais un âge d'or dont ils ne voulaient rien retenir que les légendes officielles, comme le dit Bukowski. En effet, à l'unanimité des participants de cette séance, ils condamnent Khrouchtchev pour avoir dénoncé les exactions de Staline. Gorbatchev approuve la réintégration des staliniens Malenkov et Kaganovitch, discrédités par Khrouchtchev. Dans ce même procès verbal, Ustinov propose de rebaptiser Volgograd en Stalingrad et Gorbatchev se contente de répondre « Il y a dans cette proposition des aspects positifs et des aspects négatifs ». Le 10 mars 1985, Tchernenko meurt et le 11 mars 1985, Gorbatchev est élu secrétaire général du comité central. En août 1991 survient le putsch des vieux fossiles soviétiques. En réalité, tous promus antérieurement par Gorbatchev, le putsch échoue. Gorbatchev, dont le rôle exact dans cette aventure n'a jamais été élucidé, est contraint à la démission. C'est l'effondrement de l'Empire soviétique. Comment en est-on arrivé là? Cette révolution à l'envers fut-elle spontanée? S'est-elle faite contre le gré de Gorbatchev et des autres dirigeants soviétiques? Est-ce la victoire de la ténacité de Reagan, conjuguée à celle de Jean-Paul II, dont les discours successifs ont pu déconcerter plus d'un? Je n'en suis pas convaincu, même si à l'heure actuelle, nous ne savons sans doute pas tout, et si donc on ne saurait considérer l'action de ce président des États-Unis, de ce pape, comme totalement négligeable. On ne saurait notamment faire l'impasse sur la fameuse guerre des étoiles, par laquelle les Américains, sous l'égide de Reagan, se lancèrent dans une course aux armements qui ont essoufflé l'URSS. Mais il reste à démontrer que cette politique apparemment courageuse et déterminée de l'ancien président des États-Unis fut suffisante pour provoquer l'effondrement définitif de l'Union soviétique et surtout pour éliminer définitivement de la planète le système communiste et la philosophie qui l'inspire. Pour tenter d'y voir clair, il importe à mon sens d'examiner avec attention, dans la mesure où elles sont connues aujourd'hui, quelles furent les intentions et la stratégie des derniers dirigeants soviétiques, en particulier pour la période qui s'est étendue du règne d'Andropov à la chute de Gorbatchev. Celui-ci est présenté dans les médias conformistes comme un réformateur solitaire, artisan unique ou déterminant de la réunification de l'Allemagne et de la libéralisation des mœurs politiques en Union soviétique, de l'évolution dite positive des relations internationales. À ce propos, il ne faut pas oublier que la plupart des dirigeants occidentaux disaient la même chose de ses prédécesseurs et même de Staline, que Roosevelt appelait familièrement l'oncle Joe. Novikov, personnage éminent de l'ancien département international du Comité central, déclare « L'effondrement du Parti communiste soviétique ne fut ni un accident de l'histoire, ni le soudain épanouissement de la démocratie. » Il fut le résultat d'un plan minutieusement préparé, conçu par l'élite du parti et exécuté par la direction d'un département secret du comité central, le département international. Selon Novikov, en outre, la perestroïka, présentée comme l'œuvre de Gorbatchev dans les milieux conformistes, remonte au moins à la fin des années 70, en pleine guerre froide. C'est un processus longuement étudié et élaboré par des adversaires implacables de l'Occident, comme le relève Bernardin dans l'Empire écologique. Un autre témoignage est capital, celui de Erich Honecker, ancien chef de l'État de l'Allemagne de l'Est, de la DDR, témoignage rapporté par un membre du Parlement ouest-allemand. Voici ce qu'il dit. Dans la dernière interview qu'il a accordée à la télévision ouest-allemande, le 10 octobre 1991 à Moscou, Erich Honecker a déclaré qu'il n'y a pas eu de révolution véritable en Allemagne de l'Est. C'est à mon sens une grossière erreur de supposer que ceux qui à Leipzig proclamaient en chœur « Nous sommes le peuple » et ailleurs se montraient actifs ou ont provoqué le changement qu'a connu l'Allemagne de l'Est. Il est nécessaire de réviser l'idée que l'on se fait de cet épisode de l'histoire. Et Honecker de confirmer qu'il existait une stratégie à long terme du KGB et d'évoquer une virée de Shevardnadze sur la côte de la mer Noire à l'automne 1984, c'est-à-dire toujours du temps de Tchernenko, au cours de laquelle on s'accorda sur le fait que tout devait changer en Union soviétique et ailleurs. Le 21 novembre 1990, déjà, Erich Honecker confirme expressément la politique de la Maison européenne commune de Gorbatchev à l'occasion d'une interview. Voici ce qu'il dit. « Ma destitution en tant que chef du parti et de l'État a résulté d'une manœuvre de grande envergure dont les instigateurs continuent de rester dans l'ombre. Ceux qui se vantent aujourd'hui de cette action ne sont guère que le menu fretin. Nous nous trouvons en présence de changements de première importance qui ne sont pas survenus du jour au lendemain, mais ont été planifiés depuis longtemps à l'échelle européenne et même mondiale. La réunification de l'Allemagne doit être considérée comme une contribution à la construction de la maison européenne, et étant donné la situation actuelle, cela ne pouvait être atteint que par la transformation du système politique en RDA. » Bernardin nous parle ensuite d'un ouvrage d'Anatoli Kolitsyn, ancien officier du KGB passé à l'Ouest en 1961. En 1984, il fit paraître un ouvrage fondamental intitulé « New Lease for Old », dans lequel il rendait public un texte que les dirigeants américains et britanniques avaient pu lire depuis 1968. Il y exposait la politique de désinformation soviétique, manœuvre et stratagème au-delà de l'imagination de Marx ou des possibilités pratiques de Lénine et que Staline ne pouvait concevoir. Il y prévoyait la libéralisation d'Europe de l'Est, la réforme du KGB, la diminution du rôle du parti, l'amnistie des dissidents, la chute du mur de Berlin, la réunification d'Allemagne et la dissolution du pacte de Varsovie. 94% des prévisions qu'il fit dans cet ouvrage se sont réalisées. Or, la libéralisation en Europe de l'Est n'est pour lui que la phase finale et offensive de la politique à long terme entraînant une lutte conjointe des différents partis communistes pour le triomphe complet du communisme. En 1958, Chelepin, qui dirigea ultérieurement le KGB, proposa à Khrouchtchev et à Brejnev de transformer le KGB en une arme politique sophistiquée. Il devait abandonner son rôle purement répressif qui ne lui permettait ni d'influer sur les vues de la population en faveur du régime, ni d'empêcher la croissance de tendances politiques indésirables en URSS et à l'étranger. Il n'était d'aucun secours dans la lutte idéologique contre les puissances capitalistes. Il fallait conférer à la désinformation un rôle nouveau et plus important. Les idées de Chelepin furent adoptées et il devint chef du KGB. En 1959, Golitsyn fit partie du groupe chargé de sa réorganisation sous la direction de Chelepin. Il fallait que le KGB redevint capable d'influer sur les processus de décision des pays occidentaux. À cette fin, Chelepin avait l'intention de donner la priorité aux opérations de désinformation sur l'espionnage conventionnel. L'objectif de Chelepin était donc, malgré l'accroissement effectif de la force du bloc soviétique, de parvenir à projeter l'image d'un bloc affaibli dans les domaines économiques, politiques et idéologiques. Cette guerre psychologique est confirmée par des propos de l'académicien Georgi Arbatov, l'un des concepteurs de la perestroïka. Dans un texte paru en juin 1988, en page 18 de Communiste, le journal du Parti communiste de l'Union soviétique, Georgi Arbatov explique que c'est seulement l'image de l'ennemi qui a été supprimée. Choisissant ses mots avec un soin léniniste, il écrit « L'image de l'ennemi qui est en train de disparaître a été abondamment nécessaire à la politique étrangère et militaire des États-Unis et de ses alliés. La destruction de ce stéréotype est l'arme de Gorbatchev. La course aux armements, les alliances militaires dans le tiers-monde et les blocs militaires ne sont pas concevables sans l'ennemi et sans la menace soviétique. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une arme secrète, mais elle a une énorme puissance. » Et le 11 juin 1989, au cours d'une conférence de presse qui se tint à Bonn, à l'apogée de la triomphale tournée économique de Gorbatchev en Allemagne de l'Ouest, Arbatov résuma succinctement les événements ainsi. Un grand virage a été pris dans les affaires internationales et cependant certaines personnes n'y sont pas prêtes. La chose la plus terrible que nous leur ayons faite pour le moment est que nous les privons de l'image de l'ennemi. Édouard Shevardnadze confirme cette idée dans son livre « L'avenir s'écrit liberté ». De nouveaux modes de contrôle ont été conçus au plan international et les tactiques adaptées aux différents partis communistes dans le monde au lieu d'une coordination centrale. Au plan interne, l'utilisation de techniques moins brutales à l'égard du peuple soviétique, soit l'abandon des techniques staliniennes au profit des techniques léninistes plus sophistiquées à l'exemple de Lénine lorsque provisoirement il adopta une politique économique plus libérale pour revenir 8 ans plus tard à la centralisation étatique. Le contrôle du parti devint moins voyant. Il agissait en coulisses, c'était la perestroïka qui devait permettre de conquérir le monde à l'aide de techniques sophistiquées mais infiniment plus dangereuses, car elles intervenaient non seulement dans le domaine économique, mais dans des domaines pédagogiques et écologiques notamment. Comme le relève Bernardin citant Gorbatchev, la perestroïka est un processus révolutionnaire socialiste. Il s'agit de procéder, comme le préconise Lénine, au réformisme pour faire avancer la cause de la révolution. L'influence d'Antonio Gramsci dans la perestroïka ne saurait non plus être oubliée. C'est lui qui critiqua le système terroriste coercitif soviétique pour plaider la victoire de la révolution par une dictature pédagogique et idéologique. Il faut donc pénétrer les masses par la culture et non par la lutte violente des classes, par des mesures d'ordre économique. Il est démontré par des propos tenus par des proches de Gorbatchev que Gramsci l'inspira. Sous cette influence, Gorbatchev évoqua et évoque aujourd'hui encore la nécessité de résoudre les problèmes globaux, c'est-à-dire la nécessité d'agir au plan international par le biais d'organisations supranationales. Aujourd'hui encore, Gorbatchev insiste sur la nécessité de combattre pour la survie de l'humanité, combat qui justifiera un pouvoir mondial. Il s'agit d'imposer le triomphe de valeurs universelles et d'instituer à cet effet la formation d'un monde interdépendant. C'est ainsi, selon Gorbatchev, que l'on parviendra à résoudre les grands problèmes internationaux, c'est-à-dire les cataclysmes, la drogue, les épidémies, le terrorisme. On s'achemine ainsi vers le gouvernement mondial, notion où se rencontrent aujourd'hui le capitalisme et le socialisme sur la base d'un ultralibéralisme alliant le communisme en haut, donc le totalitarisme à la tête, le libéralisme en bas, en particulier dans le domaine économique. Cette collusion est aujourd'hui manifeste, les marxistes tendent très souvent au libéralisme dans leur politique économique, et la pseudo-droite libérale, par la voix d'un Chirac, par exemple, célèbre les combattants des brigades internationales, c'est-à-dire l'armée stalinienne qui combattit l'Espagne franquiste et catholique. La conception de la culture d'un Chirac, d'un Léotard ou d'un Jack Lang en France ne se caractérise pas par des divergences fondamentales. Au contraire, elle est pratiquement commune aux communistes et aux libéraux. Aujourd'hui, la tendance à la mondialisation des grands problèmes se manifeste dans tous les domaines de l'activité humaine. Et Gorbatchev, président de la Croix verte internationale, léniniste convaincu, joue sa partition dans ce concert international à l'égal des plus grands. Ainsi, la révolution s'insinue dans tous les secteurs de l'activité humaine, culture, enseignement, justice, protection de la nature, religion. Tout cela, toute cette évolution de la stratégie communiste démontre que la chute du mur de Berlin ne fut pas le fruit d'un soulèvement spontané des masses qui se seraient insurgées brusquement contre le pouvoir totalitaire communiste, mais que cette chute fut conçue, préparée par les plus hautes sphères du pouvoir soviétique dès la fin des années 60 afin de parvenir à la victoire de la révolution par d'autres voies. Certes, cette vision d'un triomphe des anciens despotes du Kremlin sous le masque, la défaite symbolisée par la chute du mur de Berlin et le putsch avorté d'août 1991 ne rencontre pas l'approbation de quelques éminents soviétologues tels que Bukowski ou Zinoviev, de remarquables observateurs de l'histoire contemporaine tels qu'un Volkov ou un Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Spectacle du Monde, envisage la situation postérieure à l'effondrement de l'Union soviétique dans une optique quelque peu différente de celle que développe Bernardin, mais leurs conclusions ne divergent guère. Voici notamment ce que nous en dit Michel de Gégère. Je livre à votre réflexion cette interrogation un peu provocante. Le capitalisme libéral sous hégémonie américaine, dont le règne s'étend désormais sur toute la planète, n'est-il pas en train d'accomplir de façon insidieuse le programme de la révolution russe? Le communisme réduisait les individus en simples agents économiques déterminés par leur situation matérielle. Que fait le capitalisme international, si ce n'est le transformer en consommateurs avides de biens matériels et insoucieux de leur vie spirituelle? Le communisme entendait supprimer les frontières et unir les prolétaires de tous les pays sous la bannière de l'international. L'Amérique nous impose aujourd'hui la disparition des nations et le libre-échangisme des biens et des individus, la migration des peuples et le cosmopolitisme au nom de la mondialisation de l'économie. Le communisme brisait les familles pour couper les individus de leurs racines, enrégimentait les enfants, les conduisait à renier leurs parents, à témoigner parfois contre eux en justice. Le libéralisme disloque les familles par le divorce et l'union libre, la mobilité professionnelle et substitue l'endoctrinement politique à l'enseignement de l'histoire. Le communisme s'appuyait sur la tyrannie d'une idéologie. Nous avons la pensée unique avec laquelle ne fait pas bon prendre des libertés si l'on tient à sa surface sociale, si l'on veut que ses idées puissent recevoir un écho dans l'établissement, si l'on veut simplement continuer de trouver un éditeur ou un journal qui les publie. Le communisme faisait régner par la terreur la police de la pensée. Nous avons l'arsenal répressif qui permet de traîner des militants nationalistes ou simplement des intellectuels non conformistes sur le banc d'infamie, et plus généralement 1000 procédés qui permettent de les discréditer, de briser leur carrière. Le communisme établissait la dictature d'un parti unique. Nous avons les partis de gouvernement entre lesquels nous avons le droit de choisir sous peine d'être exclus du débat démocratique parce qu'ils ont peu ou prou les mêmes valeurs, les mêmes références et les mêmes programmes, et que c'est donc entre les différentes sensibilités qu'ils représentent que doit s'effectuer l'alternance. Le communisme visait à éradiquer les superstitions religieuses au profit d'un athéisme d'État, mais la laïcité et l'hédonisme ne débouchent-ils pas sur les mêmes résultats? Ne voit-on pas la Pologne sur le point d'être déchristianisée par le capitalisme, alors que le christianisme y avait survécu sous le communisme? Dans un pays comme la France, où il n'est pas encore interdit d'aller à la messe, il n'y a plus que 4% des gens qui y vont. Il sera bientôt inutile de le leur interdire. Le communisme recourait à la propagande de masse, aux mensonges institutionnels. Que fait donc la télévision aujourd'hui? Est-ce que la CNN ne dispose pas de moyens plus sophistiqués que Staline pour nous désigner nos ennemis, pour nous les faire haïr, pour nous les faire accepter comme une œuvre de justice les persécutions qui sont lancées contre eux? Voyez l'Irak, voyez la Serbie, leurs peuples ne sont-ils pas traités comme des ennemis du genre humain qu'il est légitime de faire mourir par les bombardements ou la famine? Le communisme soviétique imposait une hégémonie militaire sous le couvert d'une idéologie libératrice en imposant des régimes analogues aux siens aux pays satellites. Mais que font d'autres les États-Unis aujourd'hui? Que fait l'Amérique en Yougoslavie? Elle fait respecter les droits de l'homme par les Serbes, nous dit-on, comme elle impose le respect des lois internationales à l'Irak. Le problème est que lorsque les troupes de Kabila massacrent des centaines de milliers de civils au Zaïre, cela n'émeut guère les États-Unis, parce que Kabila est entouré de conseillers américains et qu'il a concédé à des sociétés américaines l'exploitation des mines de pierres précieuses du Katanga. C'est vrai qu'au regard de la situation des peuples qui ont été réduits en esclavage, terrorisés par des massacres de masse, déportés dans des contrées inhospitalières, privés de leurs biens, de leurs droits et libertés les plus élémentaires, notre situation est infiniment plus confortable, que la comparaison est à la limite indécente. Mais la civilisation moderne a-t-elle les mains si pures? Les chrétiens ne subissent pas le martyre, mais cela durera-t-il toujours? Voyez le tour qu'ont pris les campagnes contre le pape depuis quelques années, l'agressivité que déchaînent dans la rue ces rappels de l'enseignement moral de l'Église. Une forme de dictature apparue en notre siècle et qui ne se contente pas de l'obéissance de ses sujets, mais régent toutes les formes de la vie sociale pour faire des individus des esclaves et régner jusque sur leurs pensées, sur leurs âmes. Claude Pollin l'a cependant montré dans ses maîtres livres que sont l'esprit totalitaire et le totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement la résurgence du despotisme traditionnel rendu plus efficace par le progrès de la technique, ce qu'il appelle lui-même joliment le despotisme plus l'électricité. C'est une tyrannie entièrement nouvelle qui combine la contrainte sur tous et la participation de tous. La servitude nous abaisse jusqu'à nous la faire aimer, a dit Vauvenargues. Je crois qu'il est temps maintenant de conclure. Je pourrais en effet vous citer encore et encore de nombreux textes non conformistes d'écrivains auxquels aujourd'hui on a retiré la parole, qu'il s'agisse de Solzhenitsyn, de Volkov, de Madiran, de Paulin, de Tinoviev ou de Bernardin. En préambule à mon exposé, je m'étais efforcé de vous donner la définition du communisme. Il est en effet capital de savoir de quoi l'on parle lorsqu'on utilise certains termes. Aujourd'hui, pour le politiquement correct, le sens authentique des mots n'a plus d'importance. Ce qui est décisif, c'est l'impact que leur usage peut exercer sur les foules afin de les convertir là où l'idéologie dominante veut les amener. J'avais donc bien dit que le communisme, terme équivoque, le communisme marxiste de l'idéologie révolutionnaire qui prend sa source dans les bouleversements survenus en 1789, soit dans la Grande Révolution, est un terme équivoque. Il s'est agi dès lors d'inverser les valeurs. Il n'y avait plus de bien ou de mal. Le seul critère de la réussite politique était la valeur dynamique de la phraséologie. Ce fut là une méthode qui a triomphé sous l'Empire soviétique dans sa propagande. Il n'y avait plus ni bien ni mal, il n'y avait plus de principes intangibles. L'Empire soviétique s'est effondré, mais il ne saurait s'identifier avec les valeurs qu'il entendait imposer. Seules les méthodes ont changé. La haine des valeurs traditionnelles a survécu à la chute du mur de Berlin. Je dirais même plus, elle est plus forte que jamais. Jadis, la terreur, la balle dans la nuque, avait suscité une profonde répulsion chez les misérables qui en eurent à pâtir. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus de l'autre côté du rideau de fer. À travers les lézardes du mur de Berlin, il s'insinue partout sous des formes sournoises. On n'entend plus la grande voix de Solzhenitsyn. Vladimir Volkov est interdit de télévision et ne peut plus publier ses textes dans la grande presse. Le terrorisme intellectuel que l'Union soviétique avait cru imposer par la force, la répression physique, sévit de façon sournoise. Et c'est alors que tout ce qui fit la grandeur de la civilisation occidentale, fondée sur la loi naturelle, la philosophie grecque, le droit romain et le christianisme, est répudié par les têtes qui nous gouvernent, qu'il s'agisse des lobbies ou des marionnettes qui trônent dans les postes ministériels. L'avortement, l'union libre, le mariage des homosexuels, l'antiracisme, le développement durable, les droits de l'homme sans Dieu sont les nouvelles valeurs que l'on impose par les campagnes médiatiques, les plus puissantes que l'on ait connues à tout citoyen tout en invoquant l'esprit de tolérance. Comme l'a dit Bernardin, si les conséquences politiques de cette nouvelle idéologie sont incalculables, les conséquences les plus lourdes sont religieuses, la révolution éthique s'inscrit dans un projet de création d'une spiritualité globale. Cette révolution éthique est essentiellement une révolution athée. Elle nie le surnaturel chrétien, encourage l'œcuménisme et débouche sur le naturalisme. Ainsi, la chute du mur de Berlin, comme le putsch d'août 1991 à Moscou, apparaît comme une immense duperie, car semblant surgir au nom de la liberté, ces événements ne furent que la nouvelle étape dans le triomphe que certains voudraient définitif de la révolution. Faut-il pour autant baisser les bras, déposer les armes et se résigner? Comme l'a dit Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. Mettons donc en pratique, mais pour une fin opposée, la tactique de Gramsci et appliquons-nous à faire triompher les valeurs de notre civilisation chrétienne par la formation, par une solide culture politique. La Russie, cet immense pays aux contrées magnifiques, aux ressources humaines et matérielles sans limite, le pays de Tolstoï, Dostoïevski, Gogol, Tchaïkovski, Solzhenitsyn, Pouchkine, cette nation profondément et intensément religieuse, a été irrémédiablement meurtrie moralement et matériellement par l'effort conjugué de la haute finance et des disciples de Marx. Elle n'en finit pas de penser les plaies profondes engendrées par un cauchemar de 70 ans. Si je me suis proposé aujourd'hui de poser la question de savoir si le communisme était mort et si j'ai répondu finalement par la négative, c'est parce qu'il me paraît s'agir là d'un débat fondamental et qui nous interpelle, nous Suisses particulièrement, à l'heure où notre pays, à l'extérieur comme à l'intérieur, est l'objet d'attaques virulentes dont la fin est de détruire notre souveraineté patiemment acquise au cours des siècles. Et à nouveau, nous nous trouvons face aux mêmes adversaires, le capitalisme et le marxisme. Metternich a dit « Si la Suisse n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Il avait saisi le rôle fondamental de notre nation dans l'équilibre européen réalisé au Congrès de Vienne. C'est un devoir pour nous autres Suisses de maintenir l'œuvre de nos pères et nous ne serons jamais assez reconnaissants de l'œuvre accomplie. De tout temps, ils ont su résister aux puissances étrangères. Ils nous ont épargné les misères des deux guerres mondiales. Ils nous ont apporté la prospérité et la paix civile. Le combat est rude, l'adversaire implacable. Il nous faut et il nous faudra beaucoup de courage et d'abnégation pour défendre contre vents et marées les valeurs helvétiques. Je sais que vous en êtes conscient, vous l'avez manifesté par votre présence ce soir. Nos moyens matériels sont peut-être dérisoires, mais votre foi est ardente. C'est ainsi que nos ancêtres ont vaincu, et à notre tour nous vaincrons si nous savons ne jamais désespérer, car, et je le dirai à titre de conclusion, on n'est jamais vaincu que par soi-même. Est-ce que par hasard il y aurait des questions?
J'aimerais vous remercier parce que vous avez dressé un tableau vraiment fouillé et qui nous est très important. Donc, si je prends la parole, c'est pour vous dire merci et puis pour peut-être annoncer qu'un texte pareil qui a demandé les recherches qu'il faut sera édité par le mouvement chrétien conservateur dans un cahier et que nous vous en informerons dès que ce sera possible.
Sur le nom de qui?
Sur le nom de Vladimir Ilitch Ulyanov.
Oui, mais c'est possible. Oui.
Ça semble pas...
Moi, je pense que c'est établi, mais c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé, même par les meilleurs historiens.
Oui. Je voudrais abonder dans les remerciements qui ont été adressés à l'orateur. Je voudrais quand même poser une ou deux questions. Il y a un livre qui vient d'apparaître en France qui s'appelle Le défi russe. Je ne sais pas si vous avez connaissance. Nommé Victor Dupont. Ce auteur cherche à nous donner, à faire connaître ce qui se passe actuellement en Russie. D'après ce que nous disent les auteurs, les Russes considèrent que les 10 années qui ont suivi la chute du mur de Berlin ont été plus désastreuses pour leur pays que les 70 années du communisme. Que les structures administratives et politiques qui existaient encore dans le pays ont été totalement détruites. D'ailleurs, c'est un avis qui est partagé par Zinoviev. Il se fait jour en Russie actuellement, d'après M. Dupont, un sentiment que le communisme et le capitalisme sauvage, dont ils ont été l'objet, c'est-à-dire un pillage systématique et une destruction systématique de toutes les structures du pays, sont les fruits de ce qu'ils appellent la modernité. Et la modernité, ils l'identifient à l'Occident. C'est-à-dire qu'ils pensent que le communisme n'est pas un phénomène spécifiquement russe, bien que le terreau soit favorable, mais que c'est un phénomène qui est venu de l'incrédulité et de l'impiété de l'Occident. c'est une thèse qui est aussi développée par le philosophe italien Augusto de Noce. Il considère en fait que l'Occident a vaincu les formes religieuses du totalitarisme, qui était le nazisme et le communisme, mais que l'esprit de ces totalitarismes, qui était un esprit que vous avez décrit très clairement comme un esprit anti-Dieu, sans Dieu, a été lui totalement victorieux. Alors, je voudrais simplement peut-être poser la question, est-ce qu'on ne peut pas envisager, j'adhère à l'essentiel de ce que vous avez dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que, en fait, nous avons devant nous le développement d'un mouvement beaucoup plus profond, la dernière phase du développement d'un mouvement beaucoup plus profond, qui s'appellerait en quelque sorte la déchristianisation du monde, et qui a ses racines, par exemple, Augusto de Noce le dit, par exemple, il dit les racines, ce n'est pas du tout dans l'augustinisme de la Réforme, mais dans le refus de l'ontologie qu'on trouvait chez les philosophes prétendument catholiques du XVIIe siècle français. Voilà, je vous pose cette question. C'est-à-dire que dans une perspective de déchristianisation générale de la société, nous avons maintenant, il y a une étape communiste, nous avons une étape post-communiste, certainement encore plus virulente que sur le plan de l'antichristianisme, mais qui en est en quelque sorte une étape presque naturelle.
Mais il me semble que ça ressort de, en partie en tout cas de ce que j'ai dit. C'est bien, il est clair que la révolution bolchevique n'est pas née. N'épuise pas sa source idéologique ou philosophique en Russie, mais en Occident, dans la Révolution française en tout cas, et puis l'idéologie de la Révolution française, évidemment qu'elle est née aussi au sein de certains milieux philosophiques, de certains penseurs qui ont précédé l'époque de la Révolution française. Mais il semble que Poutine manifeste des sentiments beaucoup plus profondément ancrés dans la tradition russe, par son comportement, notamment au point de vue religieux. Il a fait, je crois, baptiser ses enfants. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'explique un peu la haine de l'Occident à l'égard de Poutine aujourd'hui. Ce déballage médiatique à propos du naufrage du sous-marin Kursk, dont on ne connaît pas la vraie cause encore aujourd'hui. Quand on sait que Gorbatchev, lors de la catastrophe de Tchernobyl, n'a rien dit, n'a pas informé l'Occident, s'est tu pendant des semaines, et de même que les États-Unis, et que maintenant il est président de la Croix-Verte internationale, et qu'en Occident on le considère, qu'on le vénère comme un sauveur, alors que Poutine est diabolisé pour quelque chose de nettement moins grave, c'est frappant de voir, de constater l'hostilité qui existe aujourd'hui à l'égard de Poutine. Bien qu'ils ne connaissent pas le personnage, il est peut-être mystérieux, il est un ancien du KGB, mais enfin c'est assez frappant de voir ce flot de critiques, ce flot convergent de critiques à l'égard de sa personne. Pour être aussi critiqué, je me dis qu'il doit avoir quelque chose de bien chez lui.
Je voulais juste ajouter à ceci.